Radio Okapi. Jeunes.
De plus en plus, des jeunes sont hyper connectés et ont accès à une quantité d'informations en quelques clics. Et la plupart d'entre eux n'utilisent que les réseaux sociaux comme seul moyen de s'informer. Parmi ces informations, il existe aussi des fausses ou fake news. Il s'agit de ces informations fallacieuses qui prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Comment démêler le vrai du faux et comment les jeunes peuvent lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux? Ce sont là les questions au centre de 100% jeunes en ce jour. Pour décrypter ce sujet, je reçois pour vous deux invités dans ce studio de 100% jeunes. Ange Kasongo-Adillé, journaliste et écrivaine, elle est auteure de l'ouvrage « Les femmes de Pacajuma ». Elle est également chargée du fact-checking à l'agence France Presse. Mais aussi Obulo Kwes, enseignant en journalisme à Ali Fassi, il est également spécialiste en communication. 100% jeunes, c'est parti. Comment les jeunes s'informent-ils sur les réseaux sociaux? Les jeunes connaissent-ils le concept des informations? Hervé Vauquat a posé ces questions à quelques jeunes qu'il a rencontrés. Voici leurs réponses.
Les réseaux sociaux, en fait, vous permettent à vous informer. Et aussi, les réseaux sociaux, c'est intéressant parce que, tel que des amis, vous êtes perdus de vue pendant des longues années et ça vous permet d'entrer en contact. Et aussi d'avoir des actualités, ce qui se passe dans le monde. Les réseaux sociaux permettent aussi à certaines célébrités, à leurs fans, de suivre leurs activités qu'ils font aussi quotidiennement. Les fake news, ce sont des nouvelles qui ne sont pas au fait vraies. Et au fait, les gens peuvent se dire, ils peuvent écrire sur les réseaux sociaux, mais la source n'est pas une source crédible. Ça peut être une fausse information. On peut dire une information telle que on dit que une célébrité a divorcé avec un couple de célébrités ont divorcé, et ce qui n'est pas vrai. Et certaines personnes utilisent les réseaux sociaux pour balancer des nouvelles qui ne sont pas vraies. En face de ces nouvelles, d'abord, premièrement, il faudra d'abord savoir d'où vient la source de ces nouvelles. Si la source est crédible, là, ça vous permettra de savoir que ces infos sont fausses.
Sur les réseaux sociaux, je m'informe souvent sur Twitter, bien que certaines informations dans les réseaux sociaux sont fausses. Pour confirmer, je vais sur Google pour plus d'informations, plus de détails. Fausses, infos politiques, administratives.
Ok. Et c'est quoi une fake news pour toi?
Une fake news, c'est une information non fondée. Donc, inventée. Les gens inventent souvent certaines choses et publient dans les réseaux sociaux.
Comment tu sais qu'une information est fausse ou vraie?
Information est vraie ou fausse. Ou des pages d'actualité qui disent des vraies choses.
C'était là des jeunes interrogés par Hervé Vauquat.
L'invité.
Et pour aborder ce sujet sur la désinformation, je reçois pour vous sur ce plateau de 100% jeunes deux experts. Il s'agit de Ange Kasongo-Adillé, elle est journaliste et écrivaine, auteure de l'ouvrage Les femmes de Pacajuma. Bonjour Ange Kasongo.
Bonjour Narcisse.
Alors pour vous, c'est la première fois en fait, hein?
Oui, c'est la première fois et j'ai un grand plaisir d'être ici et d'échanger avec vous.
En tout cas, très heureux de vous recevoir. À vos côtés, il y a effectivement ce plaisir renouvelé de recevoir Obulo Kwes, enseignant en journalisme et spécialiste en communication. Bonjour Obulo Kwes.
Bonjour Narcisse.
Alors pour vous, c'est la première fois en live?
Ah oui, non, c'est avec vous, oui, mais oui, j'ai déjà fait plusieurs lives avec vous, c'est la première fois.
Évidemment, vous êtes un habitué de Radio Okapi, mais c'est la première fois que vous venez en live sur le plateau de 100% jeunes.
Ben, bien sûr.
Généralement, c'est au téléphone, et nous, on est très heureux de vous recevoir.
Merci bien, merci.
Alors, pour entamer notre sujet, première question, c'est quoi la désinformation? Question à vous, Obul.
La désinformation, c'est le fait que une information soit donnée, mais qu'elle ne soit pas de qualité. C'est-à-dire qu'on donne une information, elle passe, tout le processus est fait, mais ce n'est pas une information de qualité. Alors la désinformation, ça peut être le fait de celui qui informe, ça veut dire que la personne qui informe essaie de ne pas donner la quantité d'information ou la qualité de l'information qu'il faut. Elle vous donne des faits qui ne sont pas ceux-là, ou à l'intérieur des faits essaie de manipuler. Généralement c'est pour des buts de manipulation, comme je le dis. Et ça peut aussi être le fait que l'environnement n'autorise pas à ce que cette information soit effectivement celle-là. Dans certaines situations, on pourrait être obligé de tromper. Quand j'ai dit obligé, ça ne veut pas dire que moralement c'est accepté ou acceptable, mais parfois il y a des gens qui arrivent à désinformer simplement parce qu'ils n'ont pas autre moyen de faire. S'ils donnent l'information correcte, l'information complète, l'information avec tous les éléments à l'intérieur, ça pourrait peut-être leur apporter des problèmes. Ou alors leur
affaiblir.
Métier, ou alors leur métier peut être celui de désinformer. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Son travail, c'est de désinformer. Ça veut dire de désorienter l'opinion, notamment lorsqu'il y a certaines questions qui touchent, par exemple, à l'État, n'est-ce pas? Les services peuvent s'arranger pour totalement désinformer, de telle manière qu'on puisse brouiller les pistes.
Donc,
afin que les gens les sachent.
Des informations montées de toutes pièces.
De toutes pièces, c'est professionnel, quoi. C'est fait comme ça, et c'est arrangé, et c'est leur métier, quoi. Donc, c'est cela un peu la désinformation, cette fête-là de donner des informations qui ne sont pas celles-là. Voilà.
Est-ce que vous partagez le même avis, Ange Kasongo?
Oui, je suis de cet avis-là. Je peux juste nuancer pour dire qu'effectivement, la désinformation, pour moi, c'est de l'information corrompue, l'information. Qui manque de sens, hein, et comme disait le professeur Oboul, ça peut être par intérêt personnel ou justement de manière professionnelle pour essayer de diversifier ou d'embrouiller un peu l'opinion publique.
Alors quelles peuvent être les conséquences, hein, quelles sont les conséquences de la désinformation, Ange?
Les conséquences sont nombreuses. C'est vrai que beaucoup de personnes qui relaient les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, certaines personnes peuvent s'orienter et même prendre position par rapport à la désinformation qu'elles ont vue passer sur les réseaux sociaux. Donc il y a une volonté du côté de personnes qui envoient les fausses nouvelles, mais de personnes qui reçoivent, il y a peut-être un changement de position ou une prise de décision qui n'aurait pas dû être prise, mais juste parce que ils n'ont pas suffisamment eu de rigueur pour s'interroger, pour interroger l'information et se poser la question si elle était bonne ou mauvaise.
Au bout?
Oui, les conséquences peuvent être nombreuses, comme a dit tout à l'heure Ange Kasongo. Première conséquence, c'est que on est désorienté, ça veut dire que on ne va pas dans la bonne direction, on ne sait pas s'orienter convenablement. La deuxième conséquence, c'est que comme l'information, c'est des éléments de connaissance, en fait, on n'a plus des éléments de connaissance, quoi. On n'en a plus, quoi. On n'a pas un ajout. En fait, on régresse au contraire au lieu d'aller de l'avant. Et les conséquences peuvent aussi être que vous puissiez agir contrairement à votre volonté ou contrairement à ce qui est requis. Parce que vous n'avez pas eu la bonne information. Je donne un exemple. On vous dit qu'il va pleuvoir et il ne pleut pas. Et puis voilà, vous avez un parapluie et puis vous avez un sac en cuir et puis il fait des bottes et puis il fait quelque chose. Vous arrivez à un milieu, on se pose la question d'où vous venez, ainsi de suite.
Vous sortez de quelle planète?
De quelle planète, voilà, ainsi de suite. Donc c'est cela. Donc souvent quand on est désinformé, on n'agit pas consciemment, on n'agit pas comme on devait pouvoir agir, et cela perturbe, quoi, en fait, la société.
Alors, quels sont les moyens qui permettent de se démarquer des fausses informations, selon vous, au Boulogne?
Oui, les premiers moyens qu'on peut mettre en jeu, qu'on peut mettre en lumière pour se démarquer de la fausse information, c'est d'abord de vérifier, n'est-ce pas? Mais le problème de la vérification, c'est que souvent c'est un travail de professionnel. Je vais en parler en leur âge parce qu'elle le fait au quotidien. Le problème des vérifications, généralement, c'est un truc de professionnel. C'est les professionnels qui savent qu'il faut pouvoir vérifier parce que les professionnels, essaie de voir si l'information qu'on lui a donnée est d'abord vraisemblable. Est-ce que c'est vraisemblable? Vous dites par exemple que quelqu'un qu'il y a eu par exemple un accident sur la route du Bandundu, et puis vous citez le village Ngeba. C'est un exemple que je donne. On dit mais Ngeba c'est pas dans le Bandundu. Ngeba c'est dans le Congo central. Déjà le fait que vous ayez cité un village qui n'est pas dans le Bandundu, ça peut donner un hic ou un tic à un professionnel. Mais pour les profanes, généralement, c'est difficile, surtout lorsqu'on est dans des milieux où on croit à tout ce qui se passe, ou si la personne qui donne l'information est plus ou moins crédible pour vous, quel que soit ce que la personne va dire, généralement, ceux qui ne sont pas entraînés acceptent ce qu'on leur dit comme ça. Alors que quelqu'un d'autre peut vous donner une bonne information, mais vous hésitez parce que peut-être vous n'avez pas confiance en cette personne. Et donc, j'ai dit qu'il y a moyen de se départir, mais ce n'est pas évident pour le commun des mortels.
Comment faire le tri entre une vraie et une fausse information sur les réseaux sociaux, notamment
en tant que professionnel ou en tant que profane?
Profane, par exemple.
Ben, en tant que profane, en tant que profane, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord aussi une question de bon sens, de rigueur aussi, de se poser la question, c'est vrai, Narcisse par exemple a posté telle information, Narcisse est journaliste, j'y crois, mais d'abord moi quand je vois une information, j'ai tendance en tant que profane, pas en tant que professionnel.
C'est rassurant.
Oui, j'ai tendance à aller voir auprès des médias, des médias que je considère crédibles. Voir est-ce que tel média en a parlé, donc est-ce que c'est la même info ou peut-être que c'est un internaute a détourné l'information. Donc en tant que profane, je dirais ça. C'est d'abord question de bon sens et aussi des rigueurs, parce que on est conscient que à l'heure des réseaux sociaux, c'est compliqué c'est plus prudent d'être plus rigoureux avant de partager une information que de partager à la va-vite.
Il y a aussi ces sites web qui fabriquent, comme le disait le professeur Oboul, ces sites web qui fabriquent du contenu juste pour générer de l'audience, et beaucoup de jeunes ne savent pas justement distinguer tout ça.
Ça, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, tant que ceux que l'on considère comme des sources d'information se trompent, alors l'opinion publique aussi se trompe facilement. Mais c'est vrai que ça, c'est plus un travail côté professionnel à travailler que de pointer du doigt les profanes, parce que tant que...
Mais qu'est-ce qui explique cela? Par exemple, si on regarde les chiffres de Reuters Institute for the Study of Journalism, 76% de personnes estiment que les réseaux sociaux, les jeunes sur les réseaux sociaux, les personnes en général sur les réseaux sociaux, ne distinguent pas suffisamment les fake news des véritables informations. Qu'est-ce qui explique tout ça?
Une explication, c'est psychologique, je crois. Il y a des gens, comme on dit, aujourd'hui la consommation des réseaux sociaux, c'est dans les milieux des jeunes. Il y a au moins 70 à 75% des personnes qui vont dans les réseaux sociaux, vraiment c'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser, pour retrouver tout ce qui leur plaît. Il y a toute une théorie, la théorie de la dissonance ou de la consonance cognitive. En fait, ce qui va avec vos intérêts vous plaît à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Ce qui fait que à un moment, on est bloqué psychologiquement. Parce que c'est une théorie psychologique. Psychologiquement, les gens sont bloqués en se disant, bon, ça représente mes intérêts. Bon, il n'y a pas longtemps, je vais donner un exemple d'actualité. Il y a 2-3 jours, n'est-ce pas? C'est passé dans la plupart des réseaux sociaux, dans tous les groupes, que un ancien ministre, pour ne pas les citer, le secrétaire général du PPRD, secrétaire, je crois, permanent du PPRD, a été déguerpi de la maison qu'il occupe, n'est-ce pas? En tout cas, demi-journée, moitié de journée, c'était ça l'information. Tout le monde a répandu l'information, ainsi de suite. Pour les profanes, pour ceux qui aiment, qui voudraient bien que ces messieurs-là soient chassés de cette maison, voilà, ça rencontre leur assentiment, et donc ils ne se doutent même pas un seul instant. Ils souhaitent même que ce soit comme ça. En fait, c'est leur souhait, c'est cette consonance cognitive. Je voudrais que ça se passe comme ça, et comme on me dit que ça s'est passé comme ça, ça m'arrange. Mais après, comme a dit Ange, le professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier pour se dire, mais est-ce que c'est vraisemblable que cela arrive? Immédiatement, on notifie à la personne et on chasse à la personne. Ça ne se fait pas comme ça généralement, n'est-ce pas? On notifie d'abord à la personne, on reçoit la personne, n'est-ce pas, auprès de la justice ou quoi, la personne se justifie, et puis on peut décider de chasser la personne. Et donc là, là, c'est déjà le côté professionnel. Mais le côté profane, généralement, on ne se pose pas ce type de questions. Lorsque l'information nous arrange, généralement, nous l'acceptons telle que cette information nous vient, sans nous rendre compte que derrière ce qui est raconté, il se pourrait qu'il y ait des pans entiers de cette information qui ne soient pas totalement vraies ou qui soient totalement fausses.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa. Je rappelle que vous suivez le magazine 100% Jeunes, le magazine des jeunes pour les jeunes avec les jeunes, qui s'intéresse aujourd'hui à la désinformation sur les réseaux sociaux. Comment les jeunes peuvent lutter contre ce fléau? C'est le sujet de ce nouveau numéro de 100% Jeunes. Pour décrypter ce sujet, je reçois pour vous Ange Kasongo Adiyé, journaliste et écrivaine, auteur de l'ouvrage Les femmes de Pacajuma. Elle est également chargée de fact-checking à l'agence France Presse, qui consiste à lutter contre la désinformation. Nous sommes également en compagnie dans ce studio de 100% Jeunes avec Oboul Okwes, enseignant en journalisme à l'IFASIC et spécialiste en communication. Ange Kasongo, vous êtes également un fact-checking, c'est ce qu'on dit,
oui.
Fact-checking de l'agence France Presse. Quelle méthode utilisez-vous justement pour lutter contre la désinformation, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ça fait aujourd'hui partie de vos activités.
C'est également...
En tant que professionnel maintenant.
Oui, en tant que professionnel, ça me plaît. D'ailleurs, je vais bien nager dans l'eau. Ce que disait le professeur Oboul tout à l'heure, c'est que d'abord, ça part du côté d'aller vers la source. Donc moi, quand je veux débusquer des éventuelles fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux, la démarche journalistique, c'est d'aller vers la source. C'est poser la question d'abord et ensuite d'aller vers la source. Mais les méthodes... autant aller vers la source, mais il y a aussi des outils gratuits sur Internet qui nous permettent de vérifier.
D'accord.
Quand il s'agit par exemple des images qui ont été détournées pour prétendre que X chose s'est passée à endroit Y, alors que ce n'est pas le cas.
Comment fonctionnent ces outils?
Alors ces outils, par exemple pour les images, on peut dire de recherche inversée, qui consiste à interroger le moteur de recherche, par exemple Google Images. Il y a aussi Yandex qui est un outil russe, mais c'est gratuit, c'est totalement gratuit. En fait, ça consiste à télécharger l'image qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Et en téléchargeant l'image, l'outil de recherche nous permet de retrouver la première fois, par exemple, que l'image a été publiée sur Internet.
D'accord.
Et l'outil de recherche nous permet aussi de remonter à la source, donc de retrouver un potentiel auteur de la photo. Je vais donner un exemple très récent. J'ai travaillé sur des lions affamés, des images des lions affamés qui ont tourné sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.
Oui, on a vu
ça. En fait, elles ont été prises au Soudan. Mais une publication prétendait qu'elle a été prise au jardin, déjà on disait jardin botanique, zoologique de Kisantou, alors que c'est un jardin botanique.
D'accord. Donc, et c'est là que vous avez tiqué.
Oui, voilà, ça déjà ça tique. On se dit, mais non, c'est faux. Mais grâce à Facebook, aujourd'hui, Facebook a placé des algorithmes qui permettent de remonter des fake news à partir du moment où les internautes signalent à Facebook, parce que c'est là même l'intérêt de signaler quand il y a une nouvelle ou une publication sur les réseaux sociaux que vous considérez un peu douteuse. Vous signalez et Facebook remonte aux différents médias, dont l'agence France Presse, pour pouvoir vérifier et ensuite informer, donner la bonne information. Donc à travers la recherche sur Internet, je suis tombée sur les photos donc qui ont été publiées au Soudan par un internaute qui était comme un lanceur d'alerte qui se promenait dans le parc et qui est tombé sur ces lions. Donc sans cette recherche d'image inversée, effectivement, la publication sur les lions attribués en RDC allait être répandue. Il y avait plus de 1000 partages déjà, par exemple. Et mais la démarche journalistique de base reste toujours essentiel, important, où deux fois il faut appeler la source, appeler cet auteur. Moi, je suis entrée en contact, par exemple, avec l'auteur de ces photos. On a discuté. Il m'a envoyé d'autres photos qui m'ont permis ensuite aussi de vérifier à travers d'autres outils où elles ont été prises exactement, à quelle heure, même de géolocaliser la photo. Donc, c'est un peu ça.
C'est impressionnant, hein, professeur Boulokwes.
Oui, bien, enfin, je corrige d'abord. Je suis chef des travaux, pas encore professeur, parce qu'ils vont se fâcher pour que je...
Enseignant, ça va.
Chef des travaux, merci.
Chef des travaux, okay, d'accord.
Alors, le fact-checking, au départ, c'est du journalisme d'investigation, mais un peu de l'investigation inversée. Ça veut dire que vous n'allez pas sur base des informations non connues. C'est vraiment des... Le fact-checking permet aujourd'hui que c'est des informations officielles. C'est des choses qui sont connues. Maintenant, vous faites un processus de vérification de cette information. Est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que les lieux sont ceux-là? Comme dit tout à l'heure Ange Kassongo, ça vous fait tiquer. En profession, vous dites, mais comment ça? Comment on peut parler d'un jardin zoologique à Kisantu alors que c'est le jardin botanique? Déjà, dès que vous avez ce type d'information, la recherche vous permet déjà de savoir que, est-ce que d'abord à Kisantu, bien que je sais qu'à Kisantu, dans les jardins botaniques, il y a le crocodile, ainsi de suite, mais est-ce que...
Les lions. On s'interroge réellement.
Et donc ça vous tique déjà, et à ce moment-là, vous entamez un processus de vérification de l'ensemble des éléments contenus dans l'information que vous avez. Ça veut dire les lieux. Est-ce que potentiellement ça peut être que ces lieux-là? Est-ce que ces lieux-là est bien positionné? Est-ce que d'abord, dans cette région-là, on peut trouver des éléphants ou je sais pas moi, des lions? Et vous continuez. Est-ce qu'en ce moment ici, il y a une crise alimentaire? Est-ce que vous prenez un ensemble de questions que vous y mettez comme étant des petites hypothèses et vous commencez à les vérifier une après l'autre, que ce soit l'identité des auteurs, ainsi de suite. Et c'est le travail qu'elle fait au quotidien. Vous allez même voir qu'il y a 3 ou 4 éléments déjà qui sont faux. Et vous allez vous dire que c'est ça. En fait, ça devient invraisemblable à un moment. C'est
cela. Donc,
c'est pas une démarche journalistique, mais elle ressemble vraiment à une démarche scientifique. Elle est journalistique, c'est vrai, mais c'est pas comme une démarche scientifique qui vous permet d'avoir des hypothèses, de vérifier les lieux, de vérifier les directions, c'est au nord, c'est au sud. Vous dites qu'ils étaient dans le lac Kivu, mais l'emplacement que l'on donne, je ne sais pas moi, 25 de latitude nord, ça équivaut par exemple au lac Tanganyika. Voilà. Dès que vous avez ce type d'éléments en professionnel, vous commencez à les vérifier et ça pourrait vous amener à sortir du journalisme pour contacter des experts d'autres domaines. Par exemple, si j'ai dit 25 latitude de degré nord, mais c'est quoi ça? Je vais aller peut-être chez les
géographes.
Voilà. Ou chez les navigants, ils peuvent me dire à quoi cela ressemble. Et donc, c'est un véritable travail de fourmi qui se fait avec le fact-checking, tout comme les autres types de journalisme d'investigation, pour vous permettre de vérifier et d'arriver à avoir finalement la bonne information. Il se pourrait même, il est même arrivé, qu'il puisse y avoir 2 informations qui ont été couplées ou qui ont été superposées pour en faire un seul fake news.
Voilà.
Donc, vous êtes obligé de démêler d'abord les 2 informations, les 2 événements qui se sont peut-être pas passés au même moment et au même endroit. Vous les démêlez, à ce moment-là, vous pourriez savoir remettre chaque élément ou chaque événement dans son propre contexte.
C'est fou hein, ce qu'apportent les réseaux sociaux de nos jours comme quantité d'informations, masse d'informations comme on dit, et c'est parfois très difficile parce qu'on est vraiment bombardé du matin au soir. Est-ce qu'il faut que les jeunes aient cette attitude de recul d'emblée une fois qu'ils sont sur les réseaux sociaux?
Moi, je conseillerais vraiment aux jeunes, justement, de prendre du recul. Quand ils voient une publication sur les réseaux sociaux, il faut se poser la question.
Peu importe la publication,
il faut se poser la question d'abord, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, aller sur les sites des médias qui sont considérés comme crédibles. Il y en a beaucoup en RDC, dont Radio Capi. Donc, il faut aller... Il faut aller et se poser. Et vous pouvez aussi visiter d'autres sites. Par exemple, nous, à l'AFP, on a un site dédié, factuel.com, où on ne fait que ça. Notre travail, c'est que de débusquer des fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important de se poser des questions. Et si vous connaissez la personne ou des proches, vous pouvez poser la question plutôt que de partager, de relayer facilement comme ça des fausses nouvelles.
Alors, une autre préoccupation, c'est de savoir en combien de temps ça vous prend pour détecter la mauvaise information et puis la traiter et la publier. Apparemment, ça peut vous prendre une demi-journée. à ce moment-là, la mauvaise nouvelle peut déjà être répandue. Comment vous gérez la situation?
Oui, exactement. C'est un travail qui nécessite beaucoup de temps et aussi il faut avoir de la patience. Parce qu'à partir du moment où on détecte une fausse nouvelle, d'ailleurs, c'est important, j'en appelle aussi aux jeunes, quand il y a une information qu'ils considèrent comme étant fausse ou qu'ils doutent de cette information, il faut signaler. Si c'est sur Facebook, vous cliquez sur signaler. Ça permet aux médias de retrouver ou à Facebook de suggérer aux médias de traiter cette information. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Certes, ça peut, par exemple, pour la publication sur les lions, c'était publié depuis le 24 janvier, je pense. Mm-hmm. Donc, ça m'a pris au moins 3-4 jours parce que je tenais à tout prix à entrer en contact avec l'auteur des images qui ont été utilisées en RDC. Donc, le problème, ce n'est pas forcément le temps, mais c'est d'apporter la bonne et la vraie information.
Mmh. Et au bout, à ce moment-là, on a une difficulté, c'est que la rumeur s'est déjà répandue quand ça prend 4 jours.
Oui, ça y est, irrattrapable de toute façon. Hein. Tout ce qui est publié, de toute façon, de manière générale, tout ce qui est publié est irrattrapable, sauf si ce sont les mêmes personnes qui peuvent vous relire après. Parce que il n'est pas évident que ce que vous avez publié maintenant, ce qu'on a publié maintenant, quand vous corrigez, que ce soit les mêmes personnes qui vous relisent. À moins que vous ayez des lecteurs ou des personnes, des auditeurs ou des téléspectateurs qui vous sont très fidèles, qui ont des programmes, des fidélités, ainsi de suite. Mmh. Et généralement, dans les médias, ces gens-là ne dépassent pas 60%. Hein, des gens qui sont totalement fidèles, qui vous suivent à tout moment, ça ne dépasse pas 60%. C'est autour des 50% des personnes. Mais l'autre moitié ou les 40% restants, en fait, vous les avez perdus parce que vous ne savez pas. Mais le plus important, c'est que finalement, qu'il y ait la bonne information finalement. Que des personnes peut-être qui n'étaient pas au courant de la mauvaise information aient la bonne information. Parce que l'objectif des médias, l'objectif de tout ce qu'on fait, c'est que l'information soit la bonne. Alors, si au moins la bonne arrive, qu'elle arrive en retard de 2-3 jours, c'est pas le plus important, même si ceux qui avaient répandu les fausses nouvelles ne vont pas les lire, mais que le bon citoyen, que celui qui n'a rien fait, quoi, qu'il ait au moins la bonne information, c'est déjà très bon. Parce que si on ne fait pas la bonne information, on laisse l'espace aux fake news, eh bien la société, elle va à la dérive. Va à la dérive parce que l'information nous permet de nous comporter d'une certaine manière, de réguler notre vie au quotidien. Si l'information est fausse, s'il y a beaucoup plus de fausses informations que de bonnes, mais la société va être totalement dérégulée, je vous assure. Quelqu'un peut être amené à commettre un acte violent parce qu'il pense peut-être qu'on a attaqué son frère ou sa sœur, alors que ce n'est pas totalement vrai. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on raconte que telle personne est décédée ou telle personne a telle maladie, surtout dans ces cas-là. Aujourd'hui, on a une grande épidémie qui est en train de sévir du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, Ebola. Imaginez-vous que vous puissiez pointer quelqu'un du doigt en disant que la personne a Ebola, alors que la personne n'a pas Ebola. Vous mettez sa photo, vous mettez cette histoire-là.
Mais c'est comme on l'a vu récemment avec les pasteurs, des scandales sur des images assez intimes qui ont circulé.
Tout à fait.
On le voit actuellement.
Tout à fait. Si cette personne-là arrive, par exemple, ici à Radio Okapi, ou entre dans la concession du Texafrica ici, dites-moi la personne que vous aviez montré qu'elle avait cette maladie d'Ebola. Imaginez-vous la panique que tous ces gens vont avoir.
Bien sûr.
Et si cette information n'est pas vraie? Non, il y a des problèmes d'ordre d'abord de la dignité de la personne, mais aussi d'ordre social que cela peut poser. C'est ainsi que, comme disait tout à l'heure Ange Kasongo, lorsqu'on raconte quelque chose sur les réseaux sociaux, il faut éviter de les partager du tic au tac au tac. Ça veut dire que dès que vous les partagez sans même prendre la peine de lire. Parce qu'il y a des gens qui ne lisent même pas, en fait. Il voit quelque chose, le lien est peut-être déjà fermé, il regarde seulement le titre et il se met à partager. Mmh. Mais est-ce que ce que vous partagez, vous l'avez d'abord lu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Voilà, ainsi de suite.
Alors, Ange Casson, on arrive à la fin. En gros, quel conseil vous donnez aux jeunes pour éviter de tomber dans ce piège de la désinformation sur les réseaux sociaux?
Ne soyez pas pressés de partager une information. Vérifiez auprès des médias crédibles avant de partager une publication sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Ange, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ouboulokwes, merci. Finalement, il y avait la technicienne sur le terrain et l'expert en communication pour orienter tout le monde. J'espère que les jeunes vont vraiment être servis avec ce numéro de 100% jeunes. Merci encore une fois de plus. Ainsi prend fin ce numéro de 100% jeunes consacré à la lutte contre la désinformation. Merci également à nos invités, Ange Kassongo Adiyé, chargé du fact-checking ou la lutte contre la désinformation à l'AFP, et Obul Okwes, spécialiste en communication. Merci également à Hervé Voka qui a participé à la production de ce magazine, supervisé par Thérèse Kankou. La prise de son a été assurée par Jean-Noël Mukondo. Je suis Baya Chamala, je vous fixe un nouveau rendez-vous pour la semaine prochaine. Même heure, même radio. Ciao, ciao, à bientôt.